VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a annoncé sa démission qui sera effective à la fin de l'année. Le Cameroun est dans l'attente des résultats officiels. L'opposant Maurice Kamto s'est proclamé vainqueur. Au moins 5 morts après une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF dans l'est de la RDC. L'ONU appelle l'Algérie à cesser immédiatement les expulsions de migrants africains. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, a créé la surprise aujourd'hui en annonçant sa démission. Nous faisons le point avec Idriss Fall.
Après avoir reçu Nikki Haley en tête-à-tête dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, le président Trump, à la surprise générale, a fait l'annonce.
Elle m'a dit il y a environ 6 mois qu'elle souhaitait prendre une pause et que le départ serait effectif à la fin de l'année.
M. Trump a loué le travail fantastique de Nikki Haley à l'ONU, disant espérer qu'elle puisse revenir à un moment ou un autre. Il n'a pas annoncé qui sera son successeur aux Nations Unies. Nikki Haley a pour sa part expliqué qu'il est important de savoir quand il est temps de changer de cap. C'est ce qu'elle a choisi de faire après avoir été gouverneur de la Caroline du Sud pendant 6 ans et bientôt 2 ans comme ambassadeur américain aux Nations Unies. À 46 ans, cette fille d'immigrés indiens a été l'un des membres les plus populaires de l'administration Trump. Elle a dit ne pas avoir de plan précis pour la suite de sa carrière, mais a assuré qu'elle ne serait pas candidate à la présidentielle de 2020.
Depuis l'annonce de la démission de Nikki Haley, de représentante des États-Unis à l'ONU, certains analystes ont évoqué une possible candidature à la présidentielle de 2020. Elle a aussitôt démenti. Sur les raisons qui pourraient expliquer le départ de Nikki Haley, Abdourahmane Dia joint ici à Washington l'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Herman Cohen.
Ça a été une surprise, mais maintenant, en réfléchissant, je crois que c'était inévitable parce qu'avec l'arrivée de M. Pompeo comme ministre des Affaires étrangères, qui est un homme très fort, agressif, et surtout M. Bolton, ancien ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, qui est maintenant le conseiller pour les affaires de sécurité auprès du président, je crois que Mme Haley n'a plus d'autorité sur la formulation des affaires étrangères. Elle reçoit des ordres. Pour une femme comme ça, qui était très importante, je crois qu'elle en avait assez.
Certains sont d'autant plus surpris qu'elle a adopté une ligne dure sur l'Iran. Elle a également réaffirmé la position du président Trump concernant Israël sur le conflit israélo-palestinien.
Oui, vous avez complètement raison. Mais il y a un sujet de différence entre elle et le président, ça c'est la Russie. Elle veut être très dure avec la Russie sur tout ce que la Russie fait dans l'Ukraine, dans la Syrie, même en Afrique maintenant, dans la République centrafricaine. Mais pour une raison ou une autre, M. Trump veut être très gentil avec M. Poutine.
C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Ici à Washington, le juge Brett Kavanaugh a siégé aujourd'hui pour la première fois à la Cour suprême des États-Unis lors d'une session studieuse consacrée à des points de droit pénal. Une poignée de manifestants s'était rassemblée devant l'édifice sur la colline du Capitole. Et puis toujours ici aux États-Unis, la Floride se prépare à l'arrivée de l'ouragan Michael. Rick Scott, le gouverneur de l'État, a averti qu'avec des crues potentiellement mortelles, Michael pourrait être la tempête la plus dévastatrice depuis des décennies en Floride. Selon les prévisions, l'ouragan devrait passer en catégorie 3 avant de toucher les côtes américaines demain mercredi. En Syrie, les rebelles et djihadistes ont retiré la plupart de leurs armes lourdes de la future zone démilitarisée de la province syrienne d'Idleb à la veille de la date butoir prévue par l'accord russo-turc sur ce dernier bastion insurgé. Et par ailleurs, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël continuerait à mener des frappes en Syrie malgré la décision russe de renforcer la défense antiaérienne du régime de Damas. Au Yémen, près de 80 rebelles ont été tués ces dernières 48 heures dans des raids de la coalition sous commandement saoudien contre la province de Hodeïda. Les frappes qui ont visé des positions de rebelles houthis dans cette région de l'ouest du pays ont également coûté la vie à 7 civils.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre camerounais de l'Intérieur, Paul Atanganji, a déclaré ce mardi que marquer un pénalty, ce n'est pas gagner le match. Il faisait référence à cette métaphore sportive employée par l'opposant Maurice Kamto pour clamer sa victoire à l'élection présidentielle de dimanche. Les précisions de Jacques Aristide.
Pour Atanganji, la proclamation de sa victoire par Maurice Kamto est un non-événement. Le ministre de l'Intérieur ajoute qu'il s'agit d'une imposture inacceptable. Hier, Maurice Kamto, l'un des principaux candidats de l'opposition, a revendiqué la victoire, mais n'a cependant pas donné de chiffres ni de pourcentage, pas plus qu'il n'a indiqué sur quoi il basait ses affirmations. Dans la foulée, les autorités ont indiqué que M. Kamto se plaçait hors la loi par de telles déclarations, le Conseil constitutionnel étant le seul organe habilité à proclamer les résultats au Cameroun, au plus tard 15 jours après le vote. D'autres candidats de l'opposition, dont deux choix aussi du Social Democratic Front, ont rejeté la proclamation de M. Kamto. Pour sa part, l'ambassade américaine au Cameroun appelle toutes les parties à attendre l'annonce des résultats officiels avant de se prononcer sur le vainqueur éventuel et à régler pacifiquement leur grief par les voies légales.
Nous reviendrons sur la situation au Cameroun dans la seconde partie de cette édition. Un responsable des droits de l'homme aux Nations Unies appelle l'Algérie à cesser immédiatement les expulsions de migrants africains vers le Niger dans un rapport rendu public aujourd'hui. Nous avons plus de détails avec Nanit Talani.
Felipe González Morales, rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme, demande au gouvernement algérien de cesser immédiatement les expulsions collectives de migrants africains vers le Niger. D'après M. Morales, les migrants sont raflés à leur domicile en pleine nuit, sans même avoir le temps de s'habiller, de prendre leurs affaires et leurs économies. Ils sont emmenés dans des postes de police, battus, puis déportés par bus vers la frontière du Niger, où ils doivent marcher pour rejoindre la ville la plus proche, accuse le rapport. Parmi ces migrants, nombreux vivaient et travaillaient depuis plusieurs années en Algérie, où leurs enfants étaient nés et scolarisés. M. Morales appelle par ailleurs le Niger à réformer sa loi contre le trafic de migrants, jugeant qu'elle pénalise autant les migrants que les trafiquants. Selon les estimations de l'Organisation internationale pour les migrations, l'Algérie a expulsé vers le Niger 35 600 Nigériens depuis 2014, dont plus de 12 000 depuis le début de cette année et plus de 8 000 migrants d'Afrique de l'Ouest depuis septembre 2017.
La France et le Tchad veulent remobiliser autour de l'initiative africaine de paix en Centrafrique. Ce sont les propos qu'a tenus Florence Parly, ministre française des armées, en déplacement aujourd'hui à N'Djamena. Elle a tenu ses propos à l'issue d'un entretien avec le président tchadien Idriss Déby Itno. Paris voit d'un mauvais œil la présence russe en Centrafrique, où Moscou est notamment impliquée dans des tentatives de médiation entre le gouvernement et les groupes armés. Dans l'est de la République démocratique du Congo, 5 civils ont été tués dans une attaque attribuée aux rebelles ougandais des Forces démocratiques alliées, ou ADF, dans la région de Beni. Par ailleurs, des dizaines d'élèves et d'écoliers ont manifesté à Beni pour demander le retour de la paix. Ils ont rencontré 21 députés venus de Kinshasa pour aborder les questions sécuritaires. Les autorités angolaises ont annoncé qu'au moins 180 000 ressortissants de la RDC, ressortissants en situation irrégulière en Angola, sont rentrés dans leur pays. L'Angola a lancé la semaine dernière une opération visant les étrangers en situation irrégulière dans le pays, notamment dans les maisons d'achat de diamants. L'intervention des forces de l'ordre a causé des incidents violents impliquant la police, les clandestins et la population locale. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé la démission du ministre des Finances. Nandhala Néné va faire l'objet d'une enquête sur des accusations de corruption. Proche du président, le ministre a reconnu la semaine dernière s'être entretenu avec des hommes d'affaires proches de l'ex-président Jacob Zuma. Et puis pour finir, au Maroc, le procès à huis clos du patron de presse Taoufik Bouachrine a repris cette semaine. Le directeur du quotidien indépendant Akhbar Al-Yaoum est jugé depuis plusieurs mois pour traite d'êtres humains, abus de pouvoir à des fins sexuelles, viol et tentative de viol. Il est jugé par la chambre criminelle de la cour d'appel de Casablanca. Journaliste connu pour son ton critique, Taoufik Bouachrine dénonce un procès politique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le FMI a abaissé ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2018 à 3,1%. Sa précédente estimation de juillet dernier envisageait 3,4%. Selon l'institution de Bretton Woods, les risques géopolitiques et les conflits internes pèsent sur les perspectives de plusieurs économies au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne. Le FMI a toutefois maintenu ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne à 3,8% en 2019. En Côte d'Ivoire, le trafic de faux médicaments engendre un énorme manque à gagner pour l'industrie pharmaceutique. Au cours des deux dernières années, 385 tonnes de faux médicaments ont été saisies à Abidjan, ce qui représente une perte financière de 100 milliards de francs CFA. 30 à 40% des médicaments sont achetés dans la rue. Quelques 42% des médicaments en circulation en Afrique subsaharienne sont falsifiés. La croissance des États-Unis va s'accélérer à un rythme soutenu en 2018. D'après les nouvelles projections du FMI, elle est largement stimulée par les réductions d'impôts. Mesure phare du mandat du président américain Donald Trump, cette réforme fiscale adoptée fin 2017 est la plus importante depuis 30 ans. La mesure a réduit certains impôts sur le revenu, et surtout à abaisser l'impôt sur les sociétés de 35% à 21%. Cependant, dit le FMI, cette croissance va s'essouffler dès l'an prochain sous l'effet de la guerre commerciale avec la Chine.
Maintenant, la page sport présentée ce soir par Nicolas Pinault. La Fédération Sierra Leonaise de football fait appel de sa suspension par la FIFA.
Ah oui, les autorités sportives Sierra Leonaise ont demandé la levée de la suspension de la Fédération décidée vendredi dernier par la FIFA. Elle dénonçait une ingérence entre les sphères politiques et sportives dans le pays. L'instance du foot mondial reproche aux autorités l'éviction de la présidente de la SLFA, Isha Johansen, et du secrétaire général Chris Camara pour des soupçons de corruption, match truqué et direction défaillante. La Fédération Sierra Leonaise demande la levée des sanctions pour permettre à la Sierra Leone de pouvoir affronter le Ghana lors des éliminatoires de la CAN. Ce sera jeudi. On rappelle que Mme Johansen et M. Camara avaient été arrêtés en septembre 2016, puis libérés sous caution à la suite d'une enquête de la commission anticorruption.
Veillée d'armes avant une nouvelle journée de qualification pour la CAN 2019.
À Bayerdar, l'Éthiopie accueille le Kenya et la Zambie face à la Guinée-Bissau à Lusaka. La Zambie qui espère revenir sur les talons du leader bissau-guinéen dans ce groupe K.
Les Camerounaises sont bien arrivées en France.
Alors que 7 joueuses et la majorité du staff de l'équipe féminine du Cameroun étaient encore bloquées au pays hier en raison d'un problème de visa, la délégation camerounaise sera bien complète ce soir à Grenoble pour affronter l'équipe féminine de la France. La fédération camerounaise a tardé à effectuer les demandes de visa alors que l'accord pour ce match amical avait été signé en août dernier. La FECAFOOT ne s'est penchée sur le dossier des visas que la semaine dernière, ce qui explique ce couac administratif.
La FIFA dévoile sa stratégie pour le développement du football féminin.
La FIFA qui a dévoilé sa première stratégie pour le développement du football féminin. Parmi les objectifs affichés, atteindre les 60 millions de pratiquantes dans le monde, doubler le nombre de championnats de jeunes, augmenter le nombre de femmes dans les comités exécutifs de chaque fédération et atteindre une audience d'un milliard de personnes lors du Mondial 2019 qui aura lieu en France l'année prochaine.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Au Cameroun, toujours aucun chiffre concernant la présidentielle de dimanche, aucune tendance, aucune indication sur le taux de participation. Du coup, la sortie hier de Maurice Kamto, qui s'est déclaré vainqueur de la présidentielle, lui vaut les critiques les plus acerbes, notamment du pouvoir. De Yaoundé, écoutons la correspondance de notre envoyé spécial, Bagassi Koura.
Hier dans la soirée, la mobilisation était générale au niveau du RDPC. Quelques heures après l'autoproclamation de Maurice Kamto, le parti au pouvoir a mobilisé son état-major pour une déclaration solennelle. Jean Kouété, secrétaire général du parti de Paul Biya, a lu la déclaration.
À l'évidence, de tels comportements relèvent de l'immaturité et de la fébrilité politique. Ils traduisent par ailleurs un mépris des règles du jeu démocratique et des institutions que leurs auteurs ambitionnaient de défendre en se portant candidat à l'élection présidentielle.
Le gouvernement camerounais qui a mis en garde à plusieurs reprises les acteurs politiques contre toute publication des résultats avant le Conseil constitutionnel est aussi monté au créneau. Issa Bakary Tchiroma, ministre de la Communication, est le porte-parole du gouvernement.
Par cette déclaration, nous avons conclu une chose. Ou il s'agit du fétichisme, ou il s'agit de la sorcellerie, ou alors quelques-uns de nos compatriotes appartenant à leur rang sont des extraterrestres qui ont la possibilité de lire ce qui n'est pas écrit.
Plus tôt dans l'après-midi, l'opposant Maurice Kamto a surpris tout le monde avec cette déclaration.
J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout.
Je ne pourrais pas commenter la position de Maurice Kamto, elle est sienne.
Serge Espoir Matomba est l'un des 7 candidats de l'opposition.
Certainement, il a des raisons, certainement, il assume. Nous, ce que nous disons à nos électeurs, c'est que les électeurs, outre les électeurs, les Camerounais doivent rester calmes et attendre.
Hier, Garga Aman Adji, aussi candidat de l'opposition, a qualifié Kamto de président des réseaux sociaux. Si c'était aussi facile, le Cameroun aurait 22 millions de présidents, a-t-il lancé. Ce mardi, l'ambassade des États-Unis à Yaoundé a exhorté tous les candidats à suivre les canaux officiels pour la publication des résultats. Bagassi Koura, Yaoundé pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur l'élection présidentielle de dimanche dernier au Cameroun. Le pays est dans l'attente des résultats, mais l'un des candidats de l'opposition, Maurice Kamto, a d'ores et déjà revendiqué la victoire face au président sortant Paul Biya. Cette proclamation jugée prématurée pourrait-elle donner lieu à une crise post-électorale dans ce pays déjà confronté aux troubles dans les régions anglophones? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Lancement aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'une campagne de lutte contre la vente de faux médicaments. Un camion sonorisé appelant au changement de comportement sur le danger lié à l'utilisation des médicaments de la rue va sillonner les 10 communes d'Abidjan et 3 villes de l'intérieur jusqu'au 13 octobre. Éric Manirakiza a joint à Abidjan le directeur de publication du journal de l'économie, Eugène Cadet.
J'espère que ça va aider à faire bouger la ligne, même si je reste fondamentalement pessimiste sur la portée, on va dire, de cette campagne. Il faut avoir l'esprit que ce n'est pas des détecteurs que les populations, et surtout les couches fragilisées, ont recours, donc, on va dire, à ces faux médicaments. On a une paupérisation très forte, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. Et c'est donc cette situation économique qui explique le recours à ces faux médicaments. Donc la campagne elle-même est un élément pour faire bouger la ligne, mais naturellement, elle n'est pas suffisante pour changer les réalités économiques que vivent les populations concernées.
Quelle devrait être la meilleure approche ?
C'est difficile à dire dans un environnement où, naturellement, l'accès aux médicaments est un défi permanent pour les populations. De notre point de vue, quelques approches peuvent quand même être initiées pour permettre justement aux populations d'avoir, on va dire, un accès un peu plus facile ou un peu moins cher aux médicaments de la rue et aux faux médicaments. Première chose, on pourrait faire en sorte que dans les hôpitaux publics, qui dépendent naturellement de l'État directement, des coûts soient négociés pour permettre un accès plus facile des populations donc aux médicaments. De même, tous les espaces de vente de faux médicaments, parce que ces espaces sont connus à Dijon ou à l'intérieur du pays, que ces espaces puissent d'une façon ou d'une autre être fermés.
Près de 400 tonnes de faux médicaments saisis en 2 ans à Abidjan, c'est quand même énorme. Qu'est-ce qui fait prospérer ce trafic au-delà de cette paupérisation que vous décrivez?
Ce n'est de notre point de vue qu'une goutte d'eau dans la mare de la quantité de faux médicaments qui rentrent dans ce pays par diverses portes d'entrée, hein, et principalement les frontières terrestres qui, on le sait, sont parfois des véritables passoires dans nos États et qui permettent donc l'accès à une grande quantité de ces faux médicaments. Ce qu'il faut faire, c'est naturellement intensifier la lutte, aussi bien policière, militaire, gendarmerie, enfin, de toutes ces forces de l'ordre, pour pouvoir justement mettre un frein à, on va dire, ce trafic de grande ampleur qui utilise des moyens conséquents face auxquels parfois les moyens de l'État s'avèrent, on va dire, insuffisants. Donc, il est nécessaire d'intensifier la lutte aux frontières. Deuxième chose, il faut qu'on mette un terme à cette forme d'impunité ambiante, ce qui fait que parfois, nos autorités, les pouvoirs publics, sont d'une façon ou d'une autre complices par rapport à l'entrée justement de ces faux médicaments parce que les enjeux économiques sont énormes et nombre de personnes chargées de mener la lutte, malheureusement, consciemment ou inconsciemment, ferment les yeux face à ce trafic.
Eugène Cadet, directeur de publication du journal de l'économie à Abidjan.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le procès qui a condamné la firme Monsanto aux États-Unis fait écho au Bénin. La société civile et les organisations pour la préservation de l'environnement tirent la sonnette d'alarme. Ils disent non à l'utilisation dans les champs du désherbant à base de glyphosate. Pendant ce temps, le gouvernement rassure qu'il n'y a pas péril en la demeure. Ginette Fleura-Dandé, la correspondante de VOA Afrique à Cotonou, nous envoie ce reportage.
La polémique sur la toxicité et la cancérogénicité du glyphosate continue de faire débat à Cotonou. Pourtant, le ministre de l'Agriculture est monté au créneau pour calmer la frayeur qui s'est emparée du monde paysan. Pour Gaston Dossoui, le glyphosate tel que utilisé ne saurait être un danger ni pour le sol ni pour les populations.
Le produit n'attaque que l'herbe. Tout médicament est un poison. Tout est affaire de dose. En termes de dangerosité, la classification du produit selon l'OMS et selon les formulations déjà nous appelle par rapport à tout ce qu'on dit là-dessus. En termes d'impact sur l'environnement, ne créons aucun dégât sur l'environnement. Et sur la santé des populations, il n'y a pas
de
débat.
Beaucoup ne sont pas de cet avis. Exemple à l'appui, Jean-Michel Kanté, pisciculteur de formation, pense que le glyphosate est réellement dangereux et son utilisation à la longue peut s'avérer fatale.
Si le produit n'était pas dangereux, pourquoi nous allons dire que nous allons détruire l'emballage? C'est totalement aberrant que chaque année, dans la région septentrionale de notre pays, pays, nous entendons que les radios, la presse relaie que papa, maman, enfant meurent pour avoir consommé ces pesticides-là. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village où vous allez aujourd'hui au Bénin, où vous ne verrez pas les emballages vides jetés partout de glyphosate.
Cette année encore, le ministère de l'Agriculture a réceptionné 50 000 litres de glyphosate sur 100 000 attendus au profit de la campagne agricole 2018-2019. Pour Michel Bocor, expert en sciences de l'environnement, il faut être aveugle pour ne pas voir les dangers du produit sur la vie des populations béninoises, surtout dans les zones rurales.
On a analysé des eaux de boisson. On a trouvé dans l'eau résidus de pesticides. Donc ce n'est pas des supputations, ce sont des preuves scientifiques. Tous les pesticides sont dangereux à des degrés divers. Chaque année, dans la région cotonnière du Bénin, il y a ce qu'on appelle l'épidémie de Hopi, diarrhée, vomissement. Et il n'y a pas eu d'année sans décès pour Hopi. Il n'y en a pas. Dû à l'utilisation des pesticides.
Dans les champs de coton et milieux ruraux, impossible de soutirer le moindre mot. La peur de manquer de pesticides oblige à opter pour la loi du silence. La société civile appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités au risque d'être complice des dégâts que l'utilisation du glyphosate entraîne depuis bien longtemps.
Est-ce que le gain du coton est plus important que la vie des populations? C'est une première interrogation. Est-ce que le gain du coton est plus important que conséquences liées à la déforestation?
Nous ne pouvons que tirer sur la sonnette d'alarme et dire qu'il faut absolument qu'on arrête immédiatement l'utilisation de ces produits dans l'agriculture.
En attendant, une campagne dénommée Stop Glyphosate a été lancée par Brice Sou, spécialiste des risques et catastrophes. Une campagne qui a pour objectif de forcer la main au gouvernement à opter pour un autre désherbant moins dangereux. De Cotonou, Ginette Lua Dandé pour VOA Afrique.
Au Soudan du Sud, l'accord de paix et de partage de pouvoir du 12 septembre avait suscité beaucoup d'espoir. Mais sur le terrain, les armes ne se sont pas tues. Notre reporter a pénétré en Équatoria centrale, en territoire rebelle, près de la frontière ougandaise. Écoutons le reportage de Patricia Huon.
Un peu plus d'une centaine de soldats défilent. Ils sont fidèles à l'ancien vice-président sud-soudanais Riek Machar. AK-47 à la main, chargeur en bandoulière, ils tentent une démonstration de force sur la base militaire de Panyoumé, non loin de la frontière avec l'Ouganda, un des territoires encore sous leur contrôle. Avec leurs armes, leurs uniformes dépareillés, baskets ou sandales aux pieds, ces jeunes hommes se disent prêts à repartir au combat. Un accord de paix signé le 12 septembre a été déjà plusieurs fois violé. Des affrontements avec les troupes gouvernementales ont eu lieu non loin de là. Comme le colonel Jeremiah Douop, officier des forces d'opposition, les belligérants se renvoient la responsabilité.
Ils sont venus avec de l'artillerie et ont bombardé sur nos positions. Quand nous sommes attaqués, nous ne pouvons pas fuir. Nous combattons pour nous défendre. Et s'ils ne veulent pas de la paix, nous devrons continuer à nous battre. Je ne peux pas regarder mon peuple se faire massacrer. C'est pour ça que je porte l'uniforme. Je dois me battre pour eux.
Cessez-le-feu, accord de paix. Les engagements successifs depuis le début de la guerre ont tous été brisés. Une tentative de retour de Riek Machar à Djouba en 2016 a au final entraîné une intensification du conflit. Cette fois encore, du côté des forces d'opposition, beaucoup sont sceptiques face aux promesses qui ont été faites. Lame Paul Gabriel, porte-parole du SPLA en opposition.
Le président veut que Riek Machar revienne à Djouba maintenant, sans ses troupes, sans l'intégration de l'armée nationale. Mais ce n'est pas possible. Nous savons que le président ne veut pas vraiment la paix. Il veut une paix temporaire pour faire revenir Riek et le tuer.
Depuis que le conflit s'est propagé ici en 2016, les villages ont été désertés. La majorité des civils ont trouvé refuge en Ouganda, mais quelques-uns restent pour aider à nourrir les soldats, pour garder accès à leurs récoltes ou parce qu'ils refusent de quitter leurs terres. C'est le cas de Jocelyn Kako qui vit sur un site de déplacés juste à côté de la frontière ougandaise, côté sud-soudanais.
Nous souffrons vraiment. Il n'y a pas d'eau, pas de nourriture, pas d'ustensile de cuisine. Même la natte sur laquelle je dors, une voisine me l'a donnée. Mon mari est mort et la situation s'aggrave de jour en jour.
La guerre au Soudan du Sud a fait des centaines de milliers de morts. Elle a été marquée d'atrocités et a séparé d'innombrables familles. Et malgré la signature d'un accord de paix, presque personne ici ne semble croire à sa prochaine application. Patricia Huon, de retour de Panyoumé, VOA Afrique.
Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Firmin, Max, Koyaweda et Lionel Gaïma. À la console, Cornelius Tinor. Au micro, Clermont Ringibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.